Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Toujours en direct de Roland-Garros avec le professeur Arnaud Fontenay. Bonsoir.
Bonsoir.
La France vous connaît désormais bien, professeur, puisque vous nous avez apporté beaucoup de pédagogie durant les années Covid au travers du conseil scientifique aussi, mais bien sûr l'Institut Pasteur d'abord, dont vous faites partie. Ce qu'on savait moins, et c'est d'autant plus d'actualité ici à Roland-Garros, c'est que vous êtes un féru de tennis.
C'est vrai, oui, c'est un sport que je pratique depuis le plus jeune âge.
Qu'est-ce que vous avez pensé des matchs alors?
Ah, il y a eu
une quinzaine.
Non, le match le plus marquant était celui d'hier soir avec une fin tragique et vraiment.
Zverev contre
Nadal. On était parti sur un duel absolument fantastique. Bon, j'espère que Zverev se remettra rapidement. Et puis pour Nadal, c'était finalement une bonne opération, même si je pense qu'il était lui aussi touché par ce qui s'est passé, parce qu'on voyait qu'il était quand même triste que le match se termine ainsi.
Bon, en tout cas, on le sait maintenant, vous êtes un féru de tennis, Arnaud Fontenay. Avant de parler de la variole du singe, Santé publique France nous alerte, j'allais dire à nouveau, on en a malheureusement l'habitude, sur un rebond du Covid en France, en Suisse et en Allemagne aussi. Chez nous, on parle en particulier des variants BA4 et BA5. Quelle est la situation précisément à date, Arnaud Fontenay?
Alors, les variants BA4 et BA5 font partie de la famille Omicron. Alors, on se souvient tous de la première vague Omicron qui nous a touchés, qui a atteint son pic au 15 janvier de cette année, avec des centaines de milliers d'infections par jour. Une vague qui était vraiment extrêmement forte. Heureusement, un virus un petit peu moins sévère que les prédécesseurs. Donc, l'impact hospitalier n'avait pas été aussi dur que ce qu'on avait connu dans le passé. Et puis, il y a eu un petit cousin, BA.2, qui est arrivé un peu plus tard, qui, lui, a eu son pic au mois de mars. Et puis, maintenant, on voit arriver BA.4, BA.5. Alors, ces deux sous-variants d'Omicron, ils sont déjà passés en Afrique du Sud. Ils sont également au Portugal. Ils sont capables d'échappement immunitaire. Hein, donc, même des personnes qui ont été récemment infectées, des personnes qui ont été vaccinées, peuvent faire une infection avec ce sous-variant. Néanmoins, l'impact en termes de forme sévère reste relativement limité parce que on a tous aujourd'hui une immunité qui s'est quand même constituée grâce au vaccin. La dose de rappel est très importante et puis aussi aux infections qu'on a pu avoir.
Mais vous nous dites quand même que ce BA.4 ou BA.5, il peut nous atteindre alors qu'on a eu Omicron en janvier, par exemple? Ou est-ce que, parce qu'on s'est habitué à se dire, on peut, entre guillemets, rechoper le Covid, mais si on l'a eu il y a un an ou un an et demi?
Non, on pourrait être réinfecté. Une fois de plus, si vous avez été infecté récemment, très vraisemblable que la forme clinique que vous allez faire sera peu sévère, mais c'est un sous-variant qui est vraiment capable d'échappement immunitaire. On voit qu'il a un avantage de transmissibilité par rapport à BA.2, par exemple, et c'est pourquoi il est en train de remplacer BA.2 qui s'était installé en France.
Ouais.
Et on s'attend donc à une remontée des cas dans les jours qui viennent, hein, puisqu'il devrait devenir majoritaire à peu près.
Avec un impact hospitalier, du coup, ou pas?
Non, je pense que l'impact hospitalier devrait rester limité. Il y a une incertitude néanmoins, c'est que si BA.4, BA.5 a touché l'Afrique du Sud et le Portugal, c'est parce qu'il n'avait pas eu de vague BA.2. Nous, on a eu une vague BA.2, on sera peut-être un peu mieux protégé parce qu'il y a ce qu'on appelle une similitude antigénique, une proximité entre BA.4, BA.5 et BA.2. Et ça aussi, ça pourrait contribuer à notre protection. Et puis, c'est l'été. Hein. On a quand même l'habitude pendant l'été à ce que ces virus qui sont respiratoires circulent un peu moins bien.
Oui. Et alors, du coup, sans faire de panique générale, nous qui avons maintenant abandonné définitivement le masque, même dans les transports, etc., est-ce qu'il y a une possibilité que ce masque revienne ou est-ce que c'est incertain pour l'instant?
Alors, le masque, il reste toujours utile pour des personnes qui sont à risque de forme grave.
Ça, donc, de toute façon.
Donc, les personnes qui sont âgées, qui ont des comorbidités, qui vivent à proximité de personnes fragiles, doivent continuer à porter le masque dans les lieux clos, parce que c'est là où on sait que la transmission est la plus facile. Et ça reste de mise avec aujourd'hui et BA.4, BA.5 qui arrivent encore un petit peu plus. Maintenant, on est dans cette phase de transition dans l'épidémie, où on voit qu'on est quand même globalement en population plutôt de mieux en mieux protégé contre les formes graves. Donc, on peut avoir une remontée pendant le mois de juin-juillet du nombre de cas liés à BA.4, BA.5. Probablement pas un impact hospitalier important parce que...
Ce qui est plutôt pas mal, parce que quand on voit l'état de l'hôpital et les professionnels de l'hôpital qui vous disent on va passer un très mauvais été parce qu'il n'y aura pas assez de personnel, c'est plutôt rassurant, en tout cas du point de vue du Covid.
Non, c'est vrai que les personnels soignants ont été extrêmement éprouvés dans les deux années qui viennent de s'écouler. On ne peut espérer qu'une chose, c'est qu'ils puissent avoir un peu de répit pendant l'été, parce que c'est le moment où on a besoin de se reposer en famille. Donc voilà, on est sur une situation qui, je pense, comme on l'avait vu l'année dernière, rappelez-vous, avec le variant Delta, on avait eu un premier pic pendant l'été, mais qui avait été assez limité. Et puis finalement, c'est à la faveur de l'automne, hein, quand les températures refroidissent, que les gens sont en intérieur, que Delta était reparti. Je ne serais pas surpris qu'on ait un scénario un peu similaire avec BA.4, BA.5, c'est-à-dire un léger pic pendant l'été et puis peut-être une reprise à l'automne prochain.
Professeur Fontanet, il y a eu comme ça, au début de l'automne, dernier, des recommandations pour une quatrième dose pour les personnes à risque, pour les personnes très âgées. Cette quatrième dose, on n'en entend plus parler. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? On sait qu'Israël avait notamment eu pour ambition de généraliser cette quatrième dose après la troisième. Finalement, ils sont revenus sur leur décision. C'est encore dans l'air? C'est plus du tout dans l'air?
Ah, je pense que pour l'automne qui vient, pour des personnes qui sont à risque de forme grave. On parle des gens de plus de 60-65 ans, des personnes avec comorbidité. Il y aura une proposition de rappel parce qu'on est quand même loin de nos dernières injections ou dernières infections. Et pour les personnes plus âgées, vous avez une baisse de l'immunité avec le temps. C'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Et puis on sait qu'à l'automne, le virus va se remettre à circuler. C'est un virus qui a un caractère saisonnier. Et un peu comme on fait pour la grippe, eh bien on pourrait être amené à protéger les plus fragiles pour l'automne qui vient.
C'est parfaitement clair. L'autre sujet, Arnaud Fontanet, c'est la variole du singe. 51 cas confirmés sur le territoire contre 33 mercredi. Donc ça fait quand même un gap, j'allais dire exponentiel, mais je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Tous les cas sont des hommes âgés entre 22 et 63 ans. Qu'est-ce que c'est que cette maladie et à quel point elle peut être, j'ai utilisé un mot qui fait peur, mais à quel point elle peut être dangereuse?
Alors, c'est un virus qui circule d'abord en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Avec l'Institut Pasteur, on travaille avec l'Institut Pasteur de Bangui depuis de nombreuses années sur la variole du singe. C'est un cousin de la variole. Alors, la variole, ça rappelle des très, très mauvais souvenirs. Hein, mais en même temps, ça avait été la seule maladie qu'on avait pu éradiquer grâce à une campagne de vaccination. Ça, c'était les années 80. On s'était débarrassé de la variole. Mais il existe d'autres virus similaires, dont la variole de singe, qui circule en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et qui avait pu donner lieu à quelques, ce que j'appellerais des exportations, hein, vers l'Europe ou vers les États-Unis dans les années passées, mais jamais du niveau qu'on observe aujourd'hui, puisqu'à l'échelle mondiale, on est à plus de 650 cas, ça c'était il y a 2-3 jours, et c'est une situation qui continue d'évoluer. Donc on est en fait face à une sortie de variole du singe qui est peut-être partie du Nigeria, on ne sait pas très bien, qui est arrivée. Alors, on a eu des cas qui sont déclarés à peu près simultanément au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal. C'est là où il y a le nombre le plus élevé de cas. On est à peu près à 50 maintenant en France. Et on voit effectivement cette épidémie se répandre. Après, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que ce qu'on a pu connaître avec des maladies comme la Covid. Et c'est un virus, il faut le savoir, qui n'est pas très contagieux. Alors, cette maladie, d'abord, pour expliquer un peu à quoi elle ressemble. Hein,
ça oui, commence comment par, est-ce que je sais, quels sont les symptômes pour savoir si j'ai la variole ou pas?
Qui pourrait vous faire croire que vous pourriez avoir la variole du singe? Heureusement, ce sera pas le cas. Il y aura très, très peu. Je pense que c'est une maladie qu'on va pouvoir contenir. Les symptômes, ça commence par un syndrome fébrile. Hein, on n'est pas très bien.
Un peu
patraque.
Courbature.
Ça va durer 24-48 heures. Et puis, vous avez une éruption cutanée qui ressemble à la varicelle. Hein, s'il fallait trouver une maladie que tout le monde connaît et qui ressemble, c'est la varicelle. Et il y a quand même deux particularités qui doivent vous faire tiquer. C'est la présence de ganglions qu'on ne voit pas typiquement avec la varicelle, qui seront des ganglions cervicaux ou dans la région inguinale. Oui. L'autre chose, c'est que la paume des mains, la plante des pieds vont être touchées. Et ça, on ne le voit pas avec la varicelle. Mais si, effectivement, vous avez une éruption qui ressemble à la varicelle, si vous avez été en contact avec un cas confirmé de variole de singe, donc ça, c'est très peu de personnes, si vous revenez d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, ou si vous appartenez à la communauté homosexuelle masculine où le virus circule beaucoup aujourd'hui, à ce moment-là, il est important d'aller consulter et même dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui aurait été en contact avec un cas confirmé, vous appelez le 15. Sinon, si vous avez une éruption qui ressemble à la varicelle, mais vous n'avez aucun facteur d'exposition que je viens de citer, vous en parlez à votre médecin, il vous examinera en faisant un petit peu attention, mais le risque de contagiosité est relativement faible. Alors, comment est-ce qu'on s'infecte? c'est au contact des lésions cutanées. Il faut vraiment, vous avez ces lésions qui ressemblent à de la varicelle, puis après ça fait des croûtes et puis un ulcère, et c'est là où, quand vous êtes en contact donc avec ces lésions, vous pouvez vous-même vous infecter. Il pourrait y avoir une transmission par voie, par postillon. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on dit que des
mais
gens...
Mais on ne sait pas encore, parce que vous dites qu'il pourrait.
En fait, c'est qu'elle existe, mais qu'elle est peu importante. Hein. On considère, par exemple, pour Santé publique France, qu'il faut que vous ayez été pendant 3 heures à côté de quelqu'un à moins de 2 mètres pour qu'on considère qu'il puisse y avoir un risque. Donc d'accord. Vous voyez que c'est un risque qui est limité. C'est vraiment le contact avec les lésions cutanées ou alors peut-être avec des vêtements ou des draps d'un malade.
Ça peut être un trajet en TGV. Hein,
qui font que vous pourriez être infecté. Mais une fois de plus, c'est une transmission qui est limitée. Nous, on travaille beaucoup, donc, comme je vous le disais, avec l'Institut Pasteur de Bangui. On a récemment, depuis 2018, documenté 35 épidémies. Elles faisaient entre 1 et 25 cas. C'est des choses qui se sont arrêtées d'elles-mêmes dès qu'on a mis les patients en isolement. Et une fois de plus, parce que la transmission n'est pas si importante. Donc là, ce qui sera important, c'est effectivement d'isoler les patients une fois que le diagnostic est confirmé. Mmh. Et pour leur contact, on peut leur faire un vaccin. Un vaccin qui, au mieux, doit être donné dans les 4 jours après le contact et jusqu'à 14 jours après le contact.
Oui, parce que la ministre, Mme Bourguignon, disait qu'il y avait des stocks suffisants. Donc, elle parle de ça. Elle parle de stocks de vaccins potentiellement utilisables dans des cas extrêmement sévères.
Voilà. En fait, ces vaccins sont un stock qui reste qu'on avait prévu parce qu'on craignait le retour de la variole. Mmh. Hein, donc, on avait toujours ce type de vaccin. On sait qu'il y a une protection croisée avec le vaccin de la variole contre la variole du singe. Aujourd'hui, la variole, effectivement, elle a disparu, elle a été éradiquée. Mais ces vaccins qui ont été améliorés, hein, parce que les plus âgés d'entre nous, les plus de 45 ans, ont été vaccinés contre la variole, ce n'était pas un vaccin très agréable. À la fois dans son mode d'administration, il y avait des effets secondaires un petit peu déplaisants. Le vaccin de troisième génération qu'on a là aujourd'hui, il est beaucoup mieux toléré. Il est disponible et il est donc pour les contacts, pour leur éviter soit d'attraper la maladie, soit de faire une forme grave s'ils étaient déjà en train de développer la maladie.
Quand on parle de variole du singe aujourd'hui, pour l'instant, c'est, j'allais dire, c'est infinitésimal. 51 cas en France. Bon, cela dit, on a vu quand même la différence entre mercredi dernier et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y en a eu pratiquement 20 d'un coup. Est-ce que vous craignez vous-même une surmédiatisation de cette maladie comme on a pu le faire par le passé, ou est-ce que ça peut, alors pas à l'échelle du Covid, mais est-ce que ça peut grimper très vite et concerner beaucoup de Français ? C'est-à-dire que les Français, les habitants de toute cette planète évidemment aussi, mais je parle puisque nous sommes tous Français, est-ce qu'on est trop, j'allais dire, marqué par ce Covid qui est très récent, par cette maladie qui a tout bouleversé dans notre quotidien, que maintenant, quand on entend parler d'une maladie, que ce soit la variole du singe, que ce soit une autre maladie qui va peut-être survenir dans 2 ans, on est extrêmement, on a une réaction pratiquement épidermique et on a extrêmement peur de ce qui pourrait nous arriver.
Alors, en fait, ce qu'on a vécu avec la Covid, ça arrive une fois tous les 100 ans. Hein. C'était la plus grave pandémie depuis la grippe espagnole il y a 100 ans. Si on met de côté le sida...
Ça va mieux en le disant, hein, Arnaud Fontanet.
Et qui a... Et si on met de côté le sida, qui avait un mode d'installation beaucoup plus insidieux et dans la durée. Donc, on a vécu un événement tout à fait exceptionnel avec la Covid. Et là, on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes par rapport à la variole du singe. Mais ce qui est très important de comprendre... c'est que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est beaucoup plus facile d'éliminer la circulation d'un virus quand on en est à quelques dizaines ou centaines de cas à l'échelle mondiale que si on le laisse s'installer, parce que là, vous pouvez vous retrouver dans des situations de transmission interhumaine. Alors une fois de plus, ça sera pas, c'est pas aussi contagieux que la...
Pas aussi rapide.
Pas aussi rapide, on ne s'attend pas du tout à se voir le même phénomène que ce qu'on a pu connaître pour la Covid, mais... Ça peut être quelque chose qui nous empoisonnerait la vie en revenant régulièrement si on laisse le virus s'installer en population humaine avec en plus éventuellement un nouveau réservoir animal. Parce qu'au départ, c'est comme pour beaucoup de ces virus qu'on appelle émergents, ça part d'un animal. Ouais. Alors là, en Afrique centrale, ce sont des rongeurs et notamment des petits écureuils qui sont hautement suspectés d'être le réservoir animal. Mais il peut y avoir des rats, par exemple, hein, d'autres types de rongeurs qui seraient ce réservoir. On ne voudrait pas que s'installe dans l'hémisphère nord un nouveau réservoir animal. Et c'est vraiment maintenant, quand vous avez 50 cas, vous pouvez aller les investiguer, leur demander les contacts, vacciner les contacts, vous pouvez faire tout ce travail et vous pouvez contrôler. Quand vous êtes à 1000 cas, 1500 cas, ça devient beaucoup plus difficile. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout paniquer les gens. On n'est pas du tout dans la situation de la Covid. En revanche, il faut être très énergique. C'est vraiment maintenant qu'il faut y aller.
Et on l'est ? On l'est ?
Ah oui, on l'est. On est vraiment sur un traçage des cas, de leurs contacts, etc., pour pouvoir les vacciner, parce que ce sera beaucoup plus facile d'éliminer, hein, on en parle donc d'élimination dans ce cas-là, le virus de sa circulation en population humaine, en tout cas pour l'hémisphère nord, que si on attend et puis qu'il finit par s'installer.
Merci beaucoup Arnaud Fontanet, professeur épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Merci d'être venu nous rendre visite ici à Roland-Garros. 18h34 dans un instant. Ça fait débat entre l'essayiste Arnaud Benedetti et le politologue Dorian Dreuil. Au menu, le président annonce que les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. C'est étonnant, non ? À tout de suite.